Vous êtes sur RTL.
Il est 12h30.
Le journal inattendu sur RTL.
12h30, 13h30.
Avec Vincent Parisot.
Bonjour à toutes et à tous. C'est donc un journal inattendu particulier que nous vous proposons aujourd'hui, comme depuis le début du confinement d'ailleurs, jusqu'à 13h30. On va prendre aujourd'hui le pouls d'un secteur à l'arrêt et qui nous amène pourtant en temps normal tant de bonheur, de rire ou de larmes. Le spectacle. Le spectacle, c'est la vie. Certes, comme on dit, show must go on, mais aujourd'hui, il est en panne et ne sait pas vraiment quand il pourra redémarrer et surtout comment il pourra le faire. Ce virus va-t-il changer la donne sur le long terme ou alors ne sommes-nous que dans une parenthèse? Comment envisager la reprise et d'ici là, comment tenir pour ces entreprises de spectacle? On va en parler avec de nombreux invités. Gérard Drouot, le grand producteur de concerts rock, avec Jean-Marc Dumontet, qui est patron à Paris de théâtre, Bobino ou le théâtre Antoine, avec Loïc Bonnet, qui est lui aussi directeur de théâtre, mais à Rouen, le théâtre à l'Ouest. On sera avec le producteur de film Étienne Mallet, avec Gérard Pont, le patron des Francofolies et du Printemps de Bourges, et puis deux artistes qui ont suspendu leur tournée et qui commencent à reprogrammer des dates seront avec nous Benabar et Louis Chédid. Voilà pour le programme de ce journal inattendu jusqu'à 13h30. Mais avant cela, l'actualité de ce samedi 18 avril, dominée par la fin de la polémique sur le confinement prolongé des personnes âgées. Après Emmanuel Macron qui assurait dès hier soir qu'il n'y aurait pas de mesures obligatoires, le président du conseil scientifique Jean-François Delfrécy s'est expliqué ce matin sur RTL. Vous l'entendrez, on aura peut-être d'ailleurs des précisions demain soir parce qu'Edouard Philippe doit tenir une conférence de presse. La bonne nouvelle de la matinée nous vient du Grand Est où l'amélioration se confirme. Le nombre d'appels au SAMU revient à un niveau normal. Illustration de cette baisse de tension dans les services d'urgence, l'hôpital de campagne militaire qui avait été installé à Mulhouse commence à être démonté. Mais bien sûr, le confinement se poursuit partout en France, y compris dans les secteurs les plus reculés. Nous irons dans les Vosges. Au menu également la reprise annoncée pour les kinés. Mais attention, ça se fera à distance. Et puis sachez qu'à Marseille, le préfet refuse le débarquement d'un bateau de croisière avec 1400 personnes à bord, dont plus de 400 Français. La météo, Valérie Quintin, ça tourne à l'orage.
Oui, ça y est, on a eu de très gros orages sur les Hauts-de-France dans le courant de la nuit et une grande partie de la matinée. Alors ça, il y a le gros des pluies est parti vers la Belgique, donc les heureuses éclaircies vont revenir peu à peu. Ce ne sera pas forcément du grand ciel bleu, mais en tout cas, ça ira beaucoup mieux. Et dans le même temps, on a une ligne orageuse qui est en train de se mettre en place dans le sud-ouest. Elle va actuellement des Pyrénées jusqu'au Puy-de-Dôme. Ces orages vont remonter vers le nord-est au fil des heures de part et d'autre. On devrait quand même conserver d'assez belles éclaircies avec un petit risque orageux avant ce soir entre la Bretagne et la Normandie. Dans tout cela, les températures restent très douces, presque estivales. 17 degrés attendus à Quimper, 20 degrés à Rouen et Marseille, 21 à Pau, 22 degrés pour Paris cet après-midi, 23 à Montauban, 24 à Mâcon et 25 à Grenoble.
Merci Valérie.
Le journal inattendu sur RTL.
La polémique commençait à prendre beaucoup d'ampleur. Une pétition lancée sur Internet avait même déjà recueilli plus de 80 000 signatures. La perspective d'un confinement prolongé après le 11 mai pour quelques 18 millions de personnes à risque, c'est l'atteinte de certaines pathologies, mais aussi toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, commençait à provoquer un tollé. C'est sans doute pourquoi Emmanuel Macron est intervenu dès hier soir à travers un communiqué. Le président affirme qu'il ne souhaite pas de discrimination de nos aînés dans le cadre du déconfinement. Confinement progressif. Le texte publié par l'Élysée précise d'ailleurs que le gouvernement en appellera à la responsabilité individuelle. C'est le professeur Jean-François Delfrécy, le président du comité scientifique, qui avait mis le feu aux poudres mercredi devant le Sénat en affirmant que les personnes âgées de plus de 65 ou 70 ans devraient rester confinées après le 11 mai. Et bien du coup, ce matin, sur RTL, en direct, il s'est expliqué.
Je pense que j'ai été surtout mal compris. J'ai voulu indiquer, et je maintiens évidemment mes propos, qu'il y avait un certain nombre de personnes en France qui allaient demeurer à risque à la sortie du confinement. Parmi ces personnes, il y a les personnes qui ont plus en effet de 65 ans. Il y a aussi d'autres personnes qui ont une polypathologie. Il y a aussi des adultes jeunes qui sont par exemple obèses. Ces personnes restent à la sortie du confinement avec plus de risques de développer une forme grave. Ça, c'est un fait médical et je suis bien sûr obligé de le rappeler. Ensuite, il faut que ces personnes soient informées du fait qu'elles sont plus à risque. Mais la décision de ce qu'elles vont faire est évidemment une décision individuelle. Il n'est pas question de leur dire « vous allez être resté confiné » et c'est une décision qui vient d'en haut et qui va vers le bas. Je n'ai jamais dit ça. Il faut évidemment faire confiance pour garder la confiance. Donc je crois qu'il y a une ambiguïté sur mes propos. Je maintiens mes propos sur les aspects médicaux pour pouvoir dire aux personnes qu'elles sont plus à risque. Et ensuite, nous faisons confiance à nos citoyens.
Voilà, Jean-François Delfraissy, le président du comité scientifique qui conseille les autorités. Il était donc ce matin sur RTL. Le déconfinement et la manière dont ça va se passer, évidemment, tout le monde en parle, mais pour l'instant, rien n'est tranché. On en saura peut-être un petit peu plus demain soir avec la conférence de presse du Premier ministre, Marie Mollet.
Oui, premier objectif de cette prise de parole, faire le point sur le front sanitaire en présence de scientifiques chargés de donner des faits, des chiffres, dixit Matignon. Mais le Premier ministre abordera également la stratégie de déconfinement. Pas de plan précis à ce stade, mais Édouard Philippe doit présenter les options à l'étude, les pistes qui restent à départager. En attendant, ces ministres sont à pied d'œuvre et sont en train de plancher sur des plans d'action en fonction de leur périmètre. Jeudi dernier, ils ont déjà transmis à Matignon une liste de questions à trancher, par exemple quel réseau de distribution pour les masques grand public, combien de masques par français doit-on fournir, qui doit les payer. En tout cas, les ministres doivent présenter une première mouture le 22 avril avant la présentation du plan de déconfinement par Édouard Philippe à la fin du mois. Un temps record, des délais inédits, mais pas le choix, explique un conseiller. Pour beaucoup de Français, le temps est long et cela ne va toujours pas assez vite.
Marie Mollet, la conférence de presse donc du Premier ministre Édouard Philippe est prévue demain aux alentours de 18h. Dans le Grand Est, où la barre des 2000 morts a été franchie la semaine dernière, la tension commence enfin à retomber dans les services d'urgence et de réanimation. Le nombre d'appels au SAMU est même passé pour la première fois depuis cette semaine sous la barre des 500 par jour, ce qui équivaut à un retour à la normale. Une bonne nouvelle qui s'accompagne d'une décision spectaculaire. L'hôpital de campagne des armées, qui vous le savez, avait été installé sur le parking de l'hôpital de Mulhouse. Cet hôpital de campagne a commencé à être démonté, Yannick Holland.
Oui, parce que depuis plusieurs jours à Mulhouse, il y a plus de patients qui sortent de réanimation que de patients qui y rentrent. Les places se libèrent, le pic est passé. Et du coup, l'hôpital militaire de campagne, avec ses 30 lits de réanimation, est désormais à moitié vide. L'armée va donc récupérer la moitié des équipements. Olivier Becht, le député du Haut-Rhin.
Nous avons désormais plus que 14 patients qui sont hospitalisés. Ça veut dire que sur l'un des deux modules, il n'y a plus personne d'hospitalisé. Donc nous pouvons sortir les lits et les respirateurs des tentes. Nous pouvons les désinfecter, nous pouvons les reconditionner et les renvoyer sur un autre théâtre. Et les tentes qui avaient accueilli le deuxième module restent sur place pour permettre, le cas échéant, de ramener du matériel si on devait être confronté à une deuxième vague, ce que personne ne souhaite, mais qui évidemment reste une possibilité.
Cet hôpital de campagne monté en urgence et devenu le symbole de la mobilisation générale aura été un succès. 48 patients soignés pendant le pic de l'épidémie, 2 décès seulement et aucun militaire infecté par le virus sur cette opération. Les 15 lits de réanimation disponibles vont maintenant être redéployés vers d'autres territoires, sans doute en Outre-mer.
Yannick Holland, sachez aussi que le porte-hélicoptère d'Ixmude est arrivé hier dans la baie de Marigot à Saint-Martin. Il était parti le 3 avril de Toulon avec à son bord 170 000 masques, 1 million de masques chirurgicaux ainsi que du gel hydroalcoolique. Il doit faire escale aujourd'hui en Guadeloupe et demain en Martinique. Les kinés vont pouvoir reprendre le travail, mais pas tout à fait normalement. Un arrêté publié aujourd'hui, au journal officiel annonce qu'ils peuvent de nouveau exercer leurs soins, mais à distance, par vidéotransmission et sous certaines conditions. Il faudra d'ailleurs qu'un premier acte ait lieu en présence du patient. Pour les mineurs, la présence d'un des parents sera nécessaire et pour les patients en perte d'autonomie, la présence d'un aidant sera requise. Bien sûr, pas question de relâcher l'effort malgré tous ces signes d'espoir, la baisse des hospitalisations, la stabilisation du nombre des cas graves. On a en effet enregistré hier encore 761 décès supplémentaires. 18 700 personnes ont succombé au coronavirus jusqu'à présent. Les forces de l'ordre continuent de faire respecter le confinement, continuent de dresser des procès-verbaux, y compris dans les coins les plus reculés de France. Même s'il s'agit aussi de surveiller les habitations vides et de vérifier que les personnes isolées ne manquent de rien. Reportage dans les Vosges, Dimitri Ramelot.
Dans la voiture sérigraphiée, le major Patrice Pulcher, commandant du peloton de gendarmerie de montagne, briefe son collègue. Le duo part pour 2h30 de patrouille à travers le massif.
On va aller au refuge du Sauteret pour voir comment ça se passe, le reconfinement, et puis ensuite, s'ils ont vu une certaine fréquentation.
Salut Jean-Marie. Ça va ?
Et derrière la porte, le propriétaire des lieux qui habite ici à l'année, les militaires viennent 2 à 3 fois par semaine, son seul lien avec l'extérieur.
C'est plutôt rassurant et puis c'est agréable aussi de discuter 5 minutes. Si jamais il y a besoin de produits de nécessité alimentaire, on demanderait à Patrice ou à ses collègues, bien évidemment.
Et le temps de prendre un café, il faut repartir plus haut, vers le Honeck qui surplombe la plaine d'Alsace. Objectif, vérification des volets et portes d'un restaurant inoccupé le temps du confinement.
On vient 2 à 3 fois par semaine. Et il ne restait plus que la porte de garage, tout est bon.
Et en cas de problème, les gendarmes appellent le propriétaire pour prévenir. Toujours pas la moindre présence, ou presque, Benoît Maps, le collègue de Patrice, sort donc ses jumelles.
On constate qu'il y a plus de chamois que de pratiquants, voilà, donc si jamais il y a des personnes qui s'aventurent sur des sentiers, on ira les voir et on ira leur dire s'il se passe quelque chose, vous allez forcément être évacué vers un centre hospitalier le plus proche, et en ce moment on sait très bien qu'ils n'ont pas besoin de ça ici, surtout dans la région.
Aucun état d'âme à verbaliser néanmoins, comme ce cycliste intercepté à 50 km de chez lui, mais Patrice et Benoît savent aussi faire preuve de discernement.
Dans sa remorque on voit qu'il a des barrières, que c'est un pick-up, c'est un gérant d'une ferme auberge.
Donc on s'arrête pas ?
Non, on n'a pas besoin.
Pas un randonneur ou touriste aperçu dans la matinée. La prochaine patrouille partira dans l'après-midi. Faire respecter le confinement sous toutes ses facettes.
Reportage signé Dimitri Ramelot. Allez, dans un instant, les spectacles, la culture face au coronavirus. The show must go on. Oui, mais quand et comment ? On va parler théâtre, cinéma. On sera avec Louis Chédid, avec Benabar. Et puis dans un instant, avec un grand producteur de concerts rock, Gérard Drouot. A tout de suite.
12h30, 13h30,
le journal inattendu sur RTL.
American Woman, Lenny Kravitz. Lenny Kravitz qui fait partie des artistes que vous produisez en concert et que vous connaissez bien. Bonjour Gérard Drouot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL. Tiens, commençons juste par cet exemple de Lenny Kravitz. Des concerts étaient prévus en France, c'est cela ?
Des concerts sont prévus dans toute l'Europe. Et Lenny avait prévu d'ailleurs de répéter avec ses musiciens américains à Paris dans les semaines qui viennent, et il ne peut pas le faire évidemment. Donc actuellement, la tournée européenne est tout à fait en danger. Parce qu'il y a des festivals, beaucoup de festivals en Europe n'auront pas lieu. Et maintenant, depuis l'interview du président, depuis l'allocution du président Macron, on sait que les festivals en France ne peuvent pas avoir lieu jusqu'au 15 juillet au moins. Très très probablement, ça sera annoncé dans les jours prochains, la tournée de Lénine ne devrait pas pouvoir avoir lieu.
Ouais, voilà. En tout cas, pas pour l'instant. Quelle est la situation pour vous aujourd'hui en tant que producteur, Gérard Drouot ? Évidemment, aucun spectacle n'est possible, on l'accomplit. Mais que se passe-t-il pour ceux qui étaient prévus ? Alors justement, vous venez de parler de Lenny Kravitz, mais en ce mois d'avril, en mai, voire en juin, des concerts étaient annoncés.
Bien sûr, on avait déjà reporté des concerts qui étaient annulés sur le mois de mars, sur le mois de juin, parce qu'on ne s'attendait pas à une durée aussi longue. Donc nous sommes dans un processus actuellement de report à nouveau des spectacles de juin, qui sont des spectacles aussi familiaux. Je produis les Harlem Globetrotters, je ne fais pas que du rock, hein, parmi les Bruce Springsteen, les CDC ou les Lenny Kravitz, je fais du jazz aussi. Donc tous ces concerts sont reportés, pour certains à l'automne, beaucoup pour 2021. La plupart des artistes qui devaient se produire dans les festivals de 2020 vont se produire sur les éditions 2021. Par contre, pour les tournées, on ne sait pas aujourd'hui quand vont pouvoir rouvrir les salles de spectacle, parce que j'entends dire, par exemple, pour les trains ou les avions, qu'on peut envisager de mettre un voyageur sur deux avec une place vide entre les deux. Je ne m'imagine pas faire un Olympia avec la moitié des gens et une place vide ou deux places vides entre chaque spectateur.
Ouais, économiquement, c'est pas possible, mais cela dit, parlez-nous quand même du dernier concert que vous avez organisé à Paris, je crois, avant le début du confinement. C'était Van Morrison, c'est ça ?
C'était Van Morrison, c'était le 10 mars, donc il y a 5 semaines à peu près, un peu plus, et les arrêtés gouvernementaux avaient réduit d'abord la fréquentation des spectacles à 5000 places, ce qui m'avait fait annuler certains spectacles dans des zéniths, et puis ensuite à 1000 places, et j'avais un Olympia, dont la capacité de l'Olympia est à peu près de 2000 personnes,
J'avais un Olympia avec Van Morrison. On lui a demandé gentiment s'il voulait bien faire deux concerts devant chaque fois une demi-salle, ce qu'il a accepté à notre grande surprise, comme quoi il était en bonne forme ce jour-là. Et d'ailleurs, ça a permis à certains spectateurs, à certains fans, d'acheter des billets pour les deux concerts. Ouais. Mais voilà, oui, on a terminé comme ça. C'est avec la participation de l'Olympia qui nous a beaucoup aidés et qui a joué le jeu. Donc, on a fait dans la même soirée deux concerts normaux. Ils n'ont pas été amputés. Mais c'était la fin. Ensuite, c'était plus possible. Et on a eu les arrêtés qui s'arrêtaient. Qui stoppait les spectacles au 15 avril. Et on a attendu donc l'allocution de Macron pour savoir jusqu'à quand ce serait interdit. Pour l'instant, nous n'avons pas de date, il n'y a pas d'arrêté précis qui est sorti et on ne sait pas exactement quand on va pouvoir reprendre les spectacles.
Quand et comment faire des concerts pour moins de 1000 personnes, assurer au moins un mètre entre chaque spectateur, voire obliger les spectateurs à porter un masque. Franchement, comment, vous pensez comment que c'est envisageable pour un spectacle, pour un concert de rock ou autre d'ailleurs,
hein? Non, ce serait envisageable théoriquement dans un théâtre ou dans une salle avec des sièges, mais il y a aussi beaucoup de spectacles avec des fosses debout. Vous me parliez de Lenny Kravitz, quand on joue à Bercy, le parterre n'est pas assis, donc les gens sont debout. Comment voulez-vous faire respecter des distances de sécurité avec des gens qui sont tous debout et qui s'agglutine vers l'artiste et vers la scène. Ça, c'est inenvisageable. Je suis pour trouver des moyens pour faire respecter la sécurité sanitaire, de même que après les attentats du Bataclan, ben, tout d'un coup, on s'est mis à mettre des portiques de sécurité, à vérifier si les gens n'avaient pas d'objets contendants ou d'armes sur eux. Donc, on peut mettre en place des systèmes pour vérifier et être certain que les gens ont éventuellement du gel, qui se protègent, etc., qui se lavent les mains ou autre. Je suis pas certain que ce soit génial d'avoir 5000 personnes dans un zénith avec des masques et peut-être même les artistes des masques sur scène. Franchement, je l'imagine pas trop.
Donc aujourd'hui, c'est l'incertitude. Va falloir sans doute se réinventer, mais vous ne savez pas comment.
C'est l'incertitude parce que à l'instar à la différence des restaurants où on leur dit vous rouvrez le 15 juillet, le 16 ou le 17, il suffit qu'ils passent leur commande, ils peuvent fonctionner. Un spectacle, ça se passe pas de la même manière. Vous mettez pas actuellement, je vais pas nous ne vendons plus de billets, les ventes de billets pour l'avenir, même pour le mois de novembre ou pour le printemps prochain 2021 sont quasiment au point mort. Elles sont à même pas 10% de ce qu'elles sont, sont à quelques pourcents de ce qu'elles sont d'habitude. Donc il faudra plusieurs semaines, voire plusieurs mois, entre la levée de l'interdiction de l'ouverture des salles de spectacle et le redémarrage de notre activité, qui sera quand même une activité qui permettra aux gens, une sorte d'antidote à une dépression.
Bien sûr.
Parce que faut pas oublier qu'actuellement, le confinement n'est pas forcément la meilleure chose pour la santé morale des Français.
On a hâte, évidemment, on a hâte que ces concerts reprennent. Et si on a déjà des billets pour des concerts qui sont toujours programmés, on les garde parce que...
Le mieux, c'est de les garder, sauf s'il y a des changements de salle. Dans ce cas-là, on est obligé de changer la billetterie. Ouais. Mais tous les concerts qui sont reprogrammés, et actuellement, je passe plus de temps à reprogrammer des concerts qu'en temps normal, on garde les billets. Nous avons d'autres problèmes avec nos assureurs, par exemple, parce que, évidemment, nous sommes couverts pour ce genre de risque. Enfin, pas tous mes collègues, mais dans ma société, je suis couvert pour les pandémies. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que dès que nous avons déclaré les premiers sinistres, notre assureur, qui est un groupe français qui s'appelle Areas, quelques semaines après, nous a envoyé une lettre recommandée pour nous dire qu'elle rompait le contrat. Donc, pour vous donner une idée, c'est un peu comme si, alors que nous sommes couverts, c'est un peu comme si vous êtes couvert pour un incendie et vous avez le rez-de-chaussée qui est en train de brûler et tout d'un coup l'assureur vous envoie une lettre en vous disant « Ah bon, on vous couvre le rez-de-chaussée, mais on ne vous couvre pas le premier
et pour le reste, on arrête. Et ça sera peut-être compliqué de trouver des assureurs. Merci beaucoup, en tout cas. C'était un plaisir de vous avoir avec nous, Gérard Drouot, de Gérard Drouot Productions, bien évidemment. Alors, de la salle de concert, on passe à la salle de cinéma avec un grand producteur de films, Étienne Mallet. Bonjour.
Bonjour.
Président de Ciné France, leur producteur de nombreux films. Je ne vais pas citer, tiens, par exemple, Yves Saint-Laurent avec Pierre Niney. Les salles de cinéma sont fermées, les tournages sont à l'arrêt. Y a-t-il encore aujourd'hui, actuellement, une activité autour du cinéma? Est-ce qu'on prévoit des tournages? Est-ce qu'on signe des contrats, toujours?
Alors, tout est bloqué sur le plan de la fréquentation et du contact avec le public. Production bloquée, il y a 300 productions françaises par an, pour le rappeler. 6000 écrans de cinéma fermés, fréquentés par environ 200 millions de personnes. C'est énorme. 300 000 salariés qui ne savent pas très bien ce qui va se passer et qui sont inquiets. 300 000 salariés, c'est autant que l'industrie agroalimentaire, hein, pour vous rendre compte. Donc ça veut dire que le cinéma traverse une crise grave et douloureuse. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle reste évidemment inerte, même si malheureusement le contact avec le public, pour les raisons d'ailleurs qui viennent d'être dites très bien par Gérard Drouot, sont impossibles, et on ne voit pas très bien quand va être la sortie du tunnel, mais ça n'empêche pas, et ça ne nous empêche pas, nous par exemple, de travailler la suite.
Oui, bien sûr.
Travailler les films, voir quand est-ce qu'on pourra les sortir. Un film, si vous voulez, il faut savoir que ça dure au moins 3 ans entre le moment où on a l'idée et le moment où il sort sur l'écran.
Bien sûr.
Donc, il y a cette période, je dirais, de confinement qui ne stoppe pas du tout ce travail préalable, mais qui est évidemment pas du tout satisfaisant, puisqu'on n'en voit pas la sortie pour l'instant.
Pour l'instant. Et alors justement, comment vous l'envisagez, la reprise? Pensez-vous qu'on va pouvoir remplir les salles de cinéma comme avant, ou qu'il faudra là aussi respecter des règles, remplir les salles à moitié seulement, porter
alors,
des
si
masques?
Je crois que le sujet est sur la table, qu'au fond, personne n'a en l'état une règle et une solution, je dirais, miracle, car les contraintes, si vous voulez, sont par nature très difficiles à contrecarrer. Une salle de cinéma, si vous voulez, c'est une salle où il y a beaucoup de gens. Un tournage, par exemple, ils sont tous bloqués pour l'instant. Hein. Il y en a au moins une centaine qui sont bloqués. Un tournage, ça veut dire que c'est des contacts entre les gens.
Bien sûr.
Et puis on voit mal les acteurs mettre des masques.
Ouais. Donc pour l'instant, vous n'avez aucune perspective. Vous n'avez pas de date.
Pour l'instant, on n'a aucune perspective. Parce que je pense que c'est très difficile, honnêtement, pour les pouvoirs publics, d'en avoir de manière certaine. Parce qu'au fond, on ne connaît pas exactement l'évolution, la rapidité de l'évolution et la rapidité de la décroissance du virus. Donc c'est extrêmement difficile, si vous voulez, d'avoir une vision claire de ce qui peut se passer. Alors je crois qu'il faut attendre, il faut se préparer à pouvoir reprendre, évidemment, dans les meilleurs délais, peut-être en organisant un certain nombre de mesures de style barrière, ne pas remplir complètement les salles, dans les tournages, faire en sorte qu'on respecte un certain nombre de distances, mais mettre des médecins, faire des tests, mais tout ça est sujet à discussion.
Bien sûr,
et n'est pas facile à résoudre.
Ouais, j'imagine qu'au moment de la reprise, dans un premier temps, c'est peut-être les films qui étaient à l'affiche la semaine où tout s'est arrêté qui pourront repartir. Mais est-ce que vous pensez que la vidéo, Netflix, vont être les grandes gagnantes, la vidéo à la demande?
Oui, alors je pense que si vous voulez, en l'état aujourd'hui, on le constate, si vous voulez, effectivement, les plateformes, pas seulement Netflix, hein, il y a des plateformes nombreuses, y compris des plateformes françaises très bien faites, hein, qui évidemment aujourd'hui rencontrent une vraie audition, beaucoup de gens les regardent. À la télévision aussi, dans les grandes chaînes, notamment sur M6, on passe des films souvent de répertoire qui ont beaucoup de succès. Et donc le film continue.
Ça fait plaisir. Le film continue et on espère très vite le revoir dans les salles. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant d'avoir la température de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du cinéma, que ce soit dans les salles et bien évidemment dans les tournages. Merci beaucoup, Étienne Mallet. On parle musique à présent.
Vincent Parisot,
le journal inattendu.
Et si un jour j'arrive au port, si ce jour-là je respire encore, j'irai courir de baisers la statue de la liberté. Je me suis fait la belle, je me suis fait la belle, je me suis fait la belle, tchou 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 tchou. Je me suis fait la belle, je me suis fait la belle. Je me suis fait la belle, tchou, tchou, tchou. Je me suis fait la belle, je me suis fait la belle. Je me suis fait la belle, tchou, tchou, tchou. Je me suis fait la belle, je me suis fait la belle. Je me suis fait la belle, tchou, tchou, tchou.
Ah, c'était dans le grand studio RTL il y a quelques semaines. Bonjour Louis Chédid.
Bonjour, comment allez-vous ?
Ça va très bien. Vous avez envie de vous faire la belle de là où vous êtes confiné ?
Non, écoutez, là, je suis pas à plaindre, je suis à la campagne, donc c'est vrai qu'il y a de la nature autour. Je peux aller faire quelques pas en dehors, etc. par rapport à certains amis qui sont à Paris vraiment confinés dans un appartement, etc. Je suis pas à plein.
Donc vous vivez ce moment avec philosophie, vous communiquez j'imagine avec votre fils Mathieu M, qui lui a d'ailleurs proposé un concert exclusif sur les réseaux sociaux.
Oui, mais moi aussi je fais des concerts tous les vendredis sur Facebook, et c'est vrai que je devais partir en tournée le 27 mars et faire une grosse tournée, et bon, évidemment tout s'est arrêté, mais c'est pour tout le monde pareil.
Vous commencez à reporter des dates, hein. J'ai vu ça pour l'automne, à partir de septembre, octobre.
On reporte tout à l'automne, à partir d'octobre en fait, on verra si c'est possible ou pas. C'est vrai que c'est un vrai manque, quoi, de pas aller, quand on est sur le point de retrouver le public, de s'arrêter, c'est un coït interrompu, je dis. Et c'est vrai que ça me manque. Alors donc je fais des concerts tous les vendredis sur Facebook.
Vous pensez que ces concerts pourront se dérouler normalement avec des salles pleines, des spectateurs collés les uns aux autres?
Vous savez, je ne sais pas, hein, tant qu'on n'y sera pas, on ne peut pas savoir. C'est vrai que je pense qu'il y aura, aussi de la part du public un manque qu'il faudra compenser. Je pense que quand on aura la sensation que tout a repris son cours, c'est-à-dire que ça a repris son cours, je pense que les gens, iront dans les salles. Il y aura sûrement une période de crainte, une période de frein comme ça, et puis il suffira que quelques spectacles commencent, se fassent, pour que les gens viennent et puis que ça se passe bien. Parce que je veux dire, ça ne peut pas durer indéfiniment.
Éternellement, parce qu'on a vraiment hâte de vous retrouver et d'aller en concert, vous entendre avec vos plus grands tubes.
Hein. T'as beau pas être beau, oh, 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 monde cinglé, hey, 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 j't'ai dans la peau. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Alors la caméra zoom arrière et tu remontes dans l'hélicoptère.
Alors on prend rendez-vous pour septembre, octobre, hein, Louis Chédid.
Avec plaisir. Merci prenez soin de vous.
Vous aussi évidemment, prenez soin de vous et on a hâte de vous retrouver sur scène. Merci beaucoup Louis Chédid.
Merci à vous.
Il est 13h, on marque une courte pause, le rappel de l'info dans quelques secondes et ensuite on parle théâtre, festival et puis de nouveau musique, on accueillera Benabar. Il est 13h01.
Journal inattendu sur RTL.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot.
Une actualité dominée par la fin de la polémique sur le confinement prolongé des personnes âgées. Après Emmanuel Macron qui assurait dès hier soir qu'il n'y aurait pas de mesures obligatoires, le président du conseil scientifique Jean-François Delfrécy s'est expliqué ce matin sur RTL et il confirme. On aura peut-être des précisions demain soir. Édouard Philippe doit tenir une conférence de presse un peu avant 18h. La bonne nouvelle de la matinée nous vient du Grand Est où l'amélioration se confirme. Le nombre d'appels au SAMU revient à un niveau normal. Illustration de cette baisse de la tension dans les services d'urgence. L'hôpital de campagne militaire installé à Mulhouse commence à être démonté. Les kinés vont pouvoir reprendre le travail, mais pas tout à fait normalement. Un arrêté a été publié aujourd'hui au journal officiel. Il annonce que les kinésithérapeutes vont pouvoir de nouveau exercer leurs soins, mais à distance, par vidéotransmission et sous certaines conditions. Et puis à Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône refuse le débarquement d'un bateau de croisière. À bord, 1400 personnes, dont plus de 400 Français, mais pas de cas de coronavirus à l'intérieur. La météo, des orages nombreux cet après-midi des Pyrénées au nord-est, des éclaircies de part et d'autre avec quelques ondées orageuses prévues près des côtes de la Manche et en Corse. Les températures seront comprises entre 15 et 26 degrés. Il fera 22 degrés à Paris, à Bordeaux, à Nantes ou à Orléans.
Le journal inattendu sur RTL,
présenté par Vincent Parisot.
Alors allons maintenant au théâtre, dans ce journal inattendu consacré au monde du spectacle et au coronavirus. Alors on ne parle pas du théâtre subventionné, mais bien du théâtre privé qui souffre énormément, puisque lui aussi est à l'arrêt à Paris comme en région. Alors commençons par la capitale, avec un homme qui est un incontournable dans ce milieu, directeur de plusieurs théâtres parisiens, le théâtre Antoine, Bobineau, le théâtre Libre, également producteur de nombreux humoristes. Bonjour Jean-Marc Dumontet.
Bonjour.
Si je peux me permettre, sur une échelle de 1 à 10, aujourd'hui, quelle est votre morale ? Sur le plan professionnel, hein,
j'entends. 10.
C'est vrai ?
10.
Pourquoi 10 ?
Mais oui, parce que, attendez, ce serait indécent. On est en bonne santé, ouais. On est vivant. Ce serait indécent de rajouter de la catastrophe à la catastrophe sanitaire. Donc, les exploits que réalisent les soignants en permanence, les exploits que l'hôpital public, que l'hôpital privé aussi, a réussi à mettre en œuvre en multipliant leurs capacités, en poussant les murs, nous indiquent que le courage, la volonté sont des bonnes réponses. Mmh. Donc oui, évidemment, c'est la catastrophe. Tout s'est arrêté, on est les premiers arrêtés, on sera les derniers à démarrer. Mais ça sert à rien de le dire. Mmh. Donc à nous de mobiliser, le jour venu. Donc,
les soignants vous ont montré l'exemple, c'est ça ce que vous voulez nous dire?
Mais évidemment, les soignants nous montrent l'exemple et même toute la société française nous montre l'exemple. Mmh. On pense qu'on est un pays indiscipliné. Regardez les efforts qui sont accomplis. Regardez tout ce pays qui vraiment se confine et fait les efforts. Ça doit inciter à l'optimisme. Bien évidemment que c'est dur, mais c'est dur pour tout le monde. Et bien évidemment que nous, on est frustrés parce que notre vie, c'est d'être sur scène, c'est de délivrer des beaux spectacles. Et là, on est impuissant. Alors, on va attendre, on va laisser passer l'impuissance. Et puis demain, il faudra redémarrer. Moi, mes pensées, elles vont évidemment aussi à tous les festivals qui peuvent pas se tenir.
On va en parler des festivals tout à l'heure avec Gérard Pont, du Printemps de Bourges, des Francofolies.
Voilà.
Mais pour vous, pour vos salles, en termes, j'allais dire, d'équation économique, vous pensez pouvoir tenir combien de temps
Ben, vous savez, on est très privilégié avec le chômage partiel qui a été mis en place, ce qui fait que les entreprises ont des charges beaucoup moins lourdes puisqu'il y a le recours au chômage partiel. Donc ça nous permet en ce moment de tenir. On est un peu, si vous voulez, dans une sorte de coma. On est entre parenthèses. Ce qui va être difficile, c'est qu'on ne connaît pas notre date de redémarrage. Donc quand on ne connaît pas notre date de redémarrage, on ne peut pas préparer les spectacles qui seront demain à l'affiche. On ne peut pas les préparer évidemment d'un point de vue artistique, mais ça, on peut trouver des prouesses pour le faire à distance, on peut travailler à distance, même si évidemment le travail sur le plateau est nécessaire, mais c'est surtout commercialement que c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de mettre à l'affiche un spectacle et de vendre des places pour septembre ou octobre. Le public, ça ne l'intéresse pas. Donc on est dans cette équation et cette difficulté-là.
Ça, c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que vous dites, même si on a une date, pas certain que le public va vouloir tout de suite, en masse, revenir s'enfermer dans les salles, c'est ça ?
C'est pas qu'il ait pas envie de s'enfermer, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas l'objet de ses préoccupations. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est inaudible pour le public, c'est pas pensable d'aller réserver des places pour un spectacle. C'est pas qu'il aura peur, il y aura évidemment des gens qui auront peur, mais il y aura aussi des gens qui auront un vrai appétit. Donc c'est pas ça qui nous angoisse, c'est que juste il faut du temps pour lancer un spectacle. Il faut du temps, ce temps il est incompressible. Et quand vous ne connaissez même pas la date de redémarrage, ben c'est impossible pour nous de faire des plans sur la comète et d'imaginer des spectacles.
Alors,
c'est tout.
Ouais, ouais, bien sûr, je comprends. Interrogation sur le quand, mais aussi interrogation sur le comment. Est-ce que vous pensez que vous pourrez reprendre dans des conditions normales, en tout cas comme avant?
On n'en sait rien. Vous savez, personne n'a de certitude. Personne n'a de certitude sur sur ce virus. On ne sait pas quand sera l'épilogue. On sait que l'épilogue sera un vaccin.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire que c'est assez loin.
Ça, c'est
donc,
à
on
longue
ne sait
échéance.
Pas quand sera. Ouais, ouais. Voilà, on ne sait pas quand sera l'épilogue. On sait que ce sera dur pour tout le monde, pour toute la société française. Ouais. Et ben maintenant, il faut que chacun retrousse ses manches et fasse tous les efforts pour que le jour J, on gagne. Vous savez, après la guerre, toute la France s'est remobilisée.
Ouais.
Et les dégâts étaient bien supérieurs. Le pays était par terre et moralement aussi par terre.
Mmh.
On y est parvenu. Je vois pas pourquoi on n'y parviendrait pas. Simplement, on va avoir des périodes très dures, très difficiles. Il faut le savoir, il faudra se battre. L'exemple des soignants, l'exemple des prouesses qu'il y a eu dans les hôpitaux, de la mobilisation du public, du privé. Moi, quand je vois, vous savez, c'est les TGV, quand je vois ces malades, 150 malades qui partent en Allemagne, je me dis, c'est extraordinaire. On est dans une société extraordinaire où on trouve des prouesses et on trouve des moyens pour soigner cette maladie. Eh ben, à nous, chacun, on est chacun porteur demain de la renaissance de la société française et de l'économie française qui sera sinistrée.
Restez avec nous, Jean-Marc Dumontet. Votre combativité, votre optimisme font plaisir. Restez avec nous parce qu'on va en région avec le directeur du théâtre à l'Ouest. C'est à Rouen. Bonjour Loïc Bonnet.
Bonjour Vincent.
Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit que Jean-Marc Dumontet?
Alors, moi je représente une toute récente association, c'est l'association des théâtres privés en région. Alors, bien sûr, on est tous d'accord, on est tous conscients de la crise sanitaire, on est tous avec nos personnels soignants et Jean-Marc a raison sur ce point-là. Et on est tous optimistes. Moi, je peux vous dire que j'ai, depuis 3-4 jours, des théâtres dans la France entière et on est tous combatifs comme Jean-Marc, c'est-à-dire qu'on a tous envie de reprendre et on sera tous là au rendez-vous. Et même le public nous accorde aujourd'hui leur soutien. La seule différence peut-être avec Jean-Marc et avec les théâtres parisiens qui sont des grosses structures en général, alors il y a des gros frais, il l'a dit, il s'est mis en gel. Il y a énormément de théâtres en province aujourd'hui qui ne seront plus là, Jean-Marc, à la sortie de la crise si on ne nous aide pas. Et aujourd'hui, personne ne nous aide.
C'est-à-dire qu'ils vont devoir mettre la clé sous la porte ?
Bien sûr. Aujourd'hui, il y a des théâtres qui ont 13 000, 15 000 euros de trésorerie. Il y a des théâtres qui en ont 200 ou 300 000 euros, parce qu'il faut parler de chiffres à un moment donné. Mais il y a des théâtres aujourd'hui, moi j'ai des directeurs de théâtre aujourd'hui, tous les jours au téléphone, qui ne savent pas s'ils vont survivre à cette crise. Et il y a des syndicats aujourd'hui à Paris, il y a un ministre de la Culture qui a fait des annonces à Paris, mais nous, on est tout seuls dans nos villes, on n'a aucun relais aujourd'hui de ce qui se passe à Paris, dans nos régions. J'ai eu Bertrand Tamin, le président du SNDTP, le Syndicat National des Théâtres Privés, hier au téléphone, qui m'a dit « Vous inquiétez pas, il y a 5 millions d'euros, mais on ne sait pas qui va les distribuer, on n'est pas au courant. Si je lis pas Le Parisien et que je l'appelle, c'est moi qui l'ai appelé, personne ne nous appelle. » J'ai eu hier le témoignage de Lumi. Lumi, c'est les bars, restaurants, et on pense à tous ces gens-là parce qu'on a aussi des amis en province qui ont
bien
des
sûr.
Bars et des restaurants.
Mmh.
Et ben, ils sont tous les deux jours dans le bureau de Bruno Le Maire. Ils l'ont dit, nous, on est tout seuls en province. Pensez à nous. On a besoin de votre aide. Moi, j'ai écouté le président de la République lors de sa première intervention. Il a dit, quoi qu'il en coûte, eh bien, quoi qu'il en coûte, c'est sauver ces petites entreprises. Parce qu'aujourd'hui, les théâtres privés en région représentent une centaine de théâtres. Il faut bien le savoir. Aujourd'hui, de plusieurs sources, Vincent, excusez-moi, je suis un peu long, mais
non, mais c'est passionnant.
De,
oui.
De plusieurs sources, on sait que au ministère, ils pensaient qu'il y avait 12 théâtres privés en province. On est plus de 100, voire 150. On représente 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. On représente 3 millions de spectateurs. On fait vivre 500, 600 personnes directes et 25 000 levées de rideaux. Ça veut dire 1300 spectacles. Ça veut dire 15 000 artistes, des comédiens bien sûr, mais des auteurs. Et aujourd'hui, tous ces lieux, on a besoin d'abord de se faire entendre. Que quelqu'un nous écoute et quelqu'un nous appelle. Aujourd'hui, je n'ai eu, je vous dis que Bertrand Tamin qui n'a eu comme réponse que de me dire « je ne sais pas ». Ouais. Et voilà. Et aujourd'hui, il y a des lieux qui ont peur parce qu'ils ont des loyers. Jean-Marc Dumontet, je ne sais pas si vous avez la chance, vos théâtres, de ne pas avoir de loyer, mais il y a des lieux aujourd'hui qui ont des loyers avec
Jean-Marc Dumontet.
Qui demandent les loyers.
Vous entendez ce que nous dit à l'instant Loïc Bonnet, c'est-à-dire que le théâtre, évidemment, c'est pas que Paris. Voilà.
Bien, alors je suis convaincu de ça, le théâtre c'est toute la France, et je suis surtout convaincu d'une chose, c'est que les aides doivent être fléchées en priorité vers les petites structures. Et que on ait un certain nombre de gros théâtres parisiens, on n'a pas besoin d'aide, on a déjà le chômage partiel. On est déjà vraiment sous oxygène grâce au chômage partiel.
On a aussi le chômage partiel, heureusement.
Bien sûr. Mais les petites structures, ce sont elles les plus fragiles. Et c'est toute l'effervescence de demain, c'est tout le tissu des jeunes auteurs, des jeunes compagnies. Et c'est en priorité vers elles qu'il faut flécher les aides.
Voilà. Il doit y avoir aussi. Il doit y avoir un sursaut de solidarité. Vous devez connaître. On mobilise les artistes depuis deux jours. On a eu les réponses de Gad Elmaleh, de Franck Dubos, d'Elysée Moon. Tous ces gens-là ont démarré dans nos lieux, nous soutiennent, et on va faire une vidéo là d'ici 2-3 jours qui va sortir sur les réseaux avec tous ces gens-là, parce que c'est pas que nous, c'est tous ces artistes-là, encore une fois. Si demain on reprend, comme Jean-Marc le dit, et qu'on a envie et que les gens ont envie, mais si ces lieux ont porte close, va venir créer les spectacles et où vont-ils créer leurs spectacles en province?
Dans ce que disait Jean-Marc Dumontet, c'est priorité aux petites structures, en tout cas.
Ce sont elles les plus fragiles, sont elles qui ont le moins accès au crédit bancaire pour des questions de surface, parfois de crédibilité économique, sans que ça soit du tout péjoratif, mais d'antériorité. Donc ce sont elles, évidemment, c'est tout ce tissu. Tout ce tissu qu'il faut préserver.
Et surtout, moi je voulais préciser, Vincent, et Jean-Marc, nous on fait ça pour l'humain, la plupart des directeurs qui se battent. On n'a jamais rien demandé à personne. Hein. Nous, nos lieux vivent sans subvention. Je tiens à préciser que c'est vraiment des théâtres privés.
On n'a jamais demandé d'aide à personne.
On n'en veut pas. C'est juste que depuis l'arrêté préfectoral, on est interdit d'ouvrir. Ouais. Et on fait ça pour l'humain. On est un tissu social en province. Vous ne pouvez même pas vous imaginer du nombre de gens qui viennent chez nous et qui sont contents de venir parce que c'est des lieux souvent intimistes. Alors ils voient leurs stars, ils voient leurs. Mais aussi plein de petits artistes qui démarrent.
Juste avant la fermeture, vous deviez faire venir Gad Elmaleh, c'est ça, non?
Bien sûr, on avait Gad Elmaleh qui devait venir le 26, alors on essaye de le recaler en septembre. Jean-Marc, j'entendais qu'il recalait des spectacles. Ouais. C'est ça le plus dur aussi pour nous, c'est qu'on n'a pas de date, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir rouvrir, et on n'a aucune perspective d'avenir. Pour l'instant, on n'a aucune perspective d'avenir. Alors on se bat tous les jours, et merci de nous avoir donné la parole, parce que
parce que le spectacle, c'est la vie, parce que vous nous faites rire, pleurer, vivre, tout simplement, tout au long de l'année, et on a vraiment hâte que ça reprenne très vite, le plus vite possible et dans les meilleures conditions. Merci à Loïc Bonnet, c'est le théâtre à l'Ouest notamment, hein, mais il représente les théâtres de région. Merci aussi à Jean-Marc Dumontet pour les théâtres parisiens. C'est théâtre à Paris, mais je pense qu'il parlait pour tous. Tiens, dans un instant, on va parler des festivals du printemps ou de l'été. Les festivals qui vont vivre une année blanche, c'est terrible. On sera avec le patron du Printemps de Bourges et des Francopholies, Gérard Pond. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL,
présenté par Vincent Parizeau.
Encore un peu plus fort, La Rochelle, allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir mieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, faire mieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir mieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, faire mieux, allez reste encore un peu. Toi et moi.
Ah, c'était l'an dernier, l'édition 2019 des Francopholies Boulevard des Airs. Bonjour Gérard Pont.
Bonjour.
Patron du Printemps de Bourges et donc des Francopholies. Des festivals annulés, purement et simplement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous, au-delà, évidemment, du côté, j'allais dire, psychologique, le côté crève-cœur. Économiquement, qu'est-ce que ça signifie pour vous?
En priorité, je voudrais vous dire que c'est toujours un petit peu délicat de se plaindre de l'annulation d'un festival de divertissement, alors qu'au même moment, on sait qu'il y a des urgences bien plus dramatiques, bien plus urgentes, bien plus, dans le pays, donc je suis pas tout à fait à l'aise pour me plaindre. En même temps, quand je vois l'émotion créée par la disparition de Christophe, quand je vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux au niveau musical, je me dis que,
Spectacle, c'est la vie, c'est ce que je disais, Gérard Pont. Exactement. C'est ce qui nous procure des émotions. Si on nous retire ces émotions, au bout d'un moment, on va avoir du mal à respirer. Hein.
Enfin voilà. Donc je voulais dire que j'avais une pensée quand même pour tous ceux qui sont en difficulté. Et voilà. Après, oui, c'est juste pas nous, c'est toute, si je prends les francophonies, c'est toute une région, un département, une ville qui vont souffrir. Je pense à tous les emplois qui sont générés par le festival immédiatement, c'est-à-dire les techniciens, les intermittents, les sociétés de nettoyage, de gardiennage, les hôteliers, les restaurateurs. Et bien, vous savez, quand il y a 200 000 personnes qui arrivent sur 5 jours sur une ville, non seulement ils consomment, mais en plus, en général, ils se promènent dans le département, dans la région. Les Charentes, je crois que c'est le premier département touristique en France. Donc, ça va avoir des conséquences pour tous ces gens-là, et ça m'inquiète pour eux, parce que ce sont des partenaires très importants aussi pour le futur du festival. On a 350 entreprises qui sont partenaires du club entreprise, et je pense vraiment à eux. Ils ont été très, très solidaires jusqu'à présent, mais je sais que ça va être difficile pour eux, et ils font partie de l'économie du festival.
Voilà, il n'était pas possible de les reprogrammer, ces festivals, à l'automne, par exemple
Pour deux raisons, non. Voire plus que deux raisons, au moins deux raisons. D'abord, je dirais, il y avait une prise de risque terrible. On ne sait pas ce qui va se passer à l'automne. Et ensuite, je crois que les gens n'auraient pas compris. Ils ont cru que c'était des motivations malvenues de vouloir absolument replacer un festival. Autre raison, évidemment, les artistes ont aussi leur propre agenda. Enfin, je pense que les Francopholies, c'est un rendez-vous, c'est un rituel qui a lieu depuis 35 ans autour du 14 juillet. Les professionnels viennent voir aussi nos jeunes talents. Et je pense que on n'aurait pas pu recréer ce climat. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Il faut passer à autre chose. Et on est super motivé, super optimiste pour faire une édition 2021 où j'espère tout le monde va être au rendez-vous. Enfin, tous les artistes déjà se sont engagés à y être, mais aussi des nouveaux, ceux de l'année.
Vous avez déjà vous voulez dire que vous avez déjà l'affiche, par exemple, vous parlez du Printemps de Bourges ou des Francopholies, là, du Printemps de Bourges
Les deux.
Vous avez déjà les affiches de 2021 ?
Oui, on a proposé aux artistes évidemment de les réinviter et évidemment ils sont très heureux ils ont hâte d'être sur scène, parce que un festival c'est un moment de partage, hein, donc c'est plus difficile de se partager sur les réseaux sociaux et donc ils sont très très hâte, et oui, je suis ravi et content, mais on va aussi évidemment j'espère qu'on aura les moyens pour ça, mais on va agrémenter cette édition 2021 des artistes qui seront d'actualité en plus de 2021, et puis des jeunes talents, parce que je pense que la créativité et les talents émergents vont continuer à exister.
Mais comment vous parlez justement des éditions de 2021, comment vous imaginez l'avenir, et notamment de ces grands festivals? Pensez-vous qu'on va pouvoir retrouver ces grands rassemblements avec des dizaines de milliers de spectateurs?
Alors déjà, les Francopholies, c'est un grand festival d'image, mais c'est un petit festival, c'est 12 000 spectateurs par jour. Oui. Bon, c'est plus que les 50 évoqués par notre ministre, mais oui, enfin, je pense que de toute façon, il y a un moment donné où la vie normale va reprendre son cours. Les épidémies, pour l'instant, ont toutes été battues. Enfin, donc,
on va gagner et on va se retrouver.
Oui, je crois. On a tous très envie on sait que le confinement est nécessaire. On va tous faire attention lorsqu'on sera déconfiné et on attend le vaccin avec impatience.
Avec déjà des affiches en préparation pour les printemps de Bourges et les Francopholies 2021. Ça met du baume au cœur. Merci beaucoup Gérard Ponte. Il est 13h21. Ce qu'on va faire, c'est marquer une courte pause et puis dans un instant, accueillir Benabar.
Le journal inattendu sur RTL,
présenté par Vincent Parisot.
Vois comme s'enflamme ce qui nous consommait. Soyons pyromanes des entraves qu'on avait. Nos regrets, des étincelles, chagrin follet, crépite au ciel, remords stériles, enfumés, l'inutile dans le brasier, ce sera, tu verras, un feu de joie, et ce sera, tu verras, un feu de joie.
Ah, qu'est-ce qu'on a envie de revivre rapidement ces moments d'émotion, ces moments de live, ces moments de scène. Bonjour Benabar.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à distance, évidemment. Vous êtes confiné chez vous ?
Oui, je suis confiné chez moi, oui, absolument, en famille.
Comment vous vivez la situation ? Ah, en famille, donc tout le monde est là autour de vous. Et pourtant, vous continuez à jouer. Je sais que vous avez fait des vidéos, vous avez notamment rendu hommage aux soignants avec un titre de votre dernier album qui s'appelle Chevalier sans armure.
Oui, qui est un titre, je précise, que j'avais fait il y a 4 ans déjà. J'essaie de faire des vidéos, ouais, parce que c'est, mais pas trop. J'essaie de pas être trop présent. Je trouve qu'il y a beaucoup de vidéos et que le public est bien assez sollicité comme ça. Et surtout, ouais. Je trouve qu'il y a plein de vidéos des gens eux-mêmes qui sont pas forcément chanteurs ou chanteuses qui sont super. Donc je passe surtout du temps à regarder, à écouter ce que font les gens, pas forcément les gens connus entre guillemets.
Ouais, mais quand vous avez choisi ce titre Chevalier sans armure pour parler des soignants, j'imagine évidemment que ça résonne particulièrement. L'idée que ça patauge pas mal sur la protection des soignants à travers les masques et autres, c'est quelque chose qui vous a heurté, vous ?
Écoutez, moi j'essaye d'appliquer ce qu'on me demande, vraiment avec beaucoup de discipline. Moi, je suis vraiment très bon élève. Moi, je veux pas rentrer dans
polémique,
surtout en ce moment, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il faut faire front, tenir bon,
et
puis encourager les gens. Puis penser, évidemment, on le dit souvent, mais faut le répéter, évidemment, au personnel soignant, aux malades aussi qui sont dans la difficulté. Puis tous les gens aussi qui vivent le confinement dans des conditions difficiles. J'y pense beaucoup, parce que moi, je fais partie des chanceux. On a un bout de jardin. Et j'imagine pour les gens qui sont inquiets dans un deux pièces, quoi.
Évidemment, on pense à eux très fort. Vous deviez être au Bataclan à partir du 16 mars et puis en tournée partout en France. Évidemment, ça ne s'est pas produit.
Oui.
Mais vous commencez à reporter des dates, vous aussi. On était tout à l'heure avec Louis Chédid qui commence à reporter des dates à l'automne.
Oui, on commence à reporter des dates à l'automne, mais un peu dans l'expectative encore, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer à l'automne. Et puis encore une fois, c'est vraiment anecdotique. Ce qui compte, évidemment, c'est la maladie elle-même et puis les gens potentiellement touchés. Hein. C'est à eux que je pense, hein, pas à nos dates ou reports. Pour moi, ça me semble très superficiel, secondaire, abstrait. Oui, même si. Oui. J'ai encore beaucoup d'importance, moi, à la musique en général, et puis à la littérature, à tout ça. Mais c'est vrai que ça passe un peu au deuxième plan en ce moment, quoi. Là, le moment est au combat, quoi.
On comprend bien. Cela dit, vous devez avoir hâte de proposer à vos fans les titres qu'ils attendent. On s'offre quand même un petit florilège. Hein.
C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Joli comme expression, petite chose, dégâts immenses. C'est l'histoire de l'agneau qui invite le loup à manger. C'est l'histoire du cochon, apprenti charcutier. C'est l'histoire du canard qui trouve sympa d'être claqué. C'est l'histoire du pigeon qui, enfin bref, vous avez compris l'idée. On s'en fout, on n'y va pas. On n'a qu'à se cacher sous les rats, on commandera des pizzas, toi la télé et moi.
Benabar, vous les imaginez comment ces concerts de la reprise? Est-ce que vous imaginez que tout pourra recommencer comme avant?
Comme avant, je sais pas. Je suis un peu comme nous tous, je pense. Je suis un peu, pas sidéré, pas jusque-là, mais un peu vraiment dans l'attente, très très perplexe sur ce qui va se passer, en espérant qu'il va en sortir du bon. Je crois pas que ça va être exactement comme avant. Et puis, ça va dépendre aussi des consignes médicales, quoi. Parce qu'on n'en fait pas grand-chose.
On en a parlé là depuis le début de l'émission, et notamment par exemple avec Gérard Drouot, qui lui envisageait mal. Un concert où il devrait faire respecter un mètre de distance entre chaque spectateur.
Ben oui, exactement. C'est sûr que les mesures dites barrières, c'est un peu contradictoire avec le fait même de faire un concert, parce que du jeu, c'est de se toucher, d'être là, d'être côte à côte, de chanter, donc potentiellement de postillonner. Enfin, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez incompatible, en effet. Alors après, il faudra... faudra s'y faire. Puis encore une fois, mais c'est valable pour les concerts, mais c'est valable pour le métro, pour le train, pour aller travailler. Les restaurants, je pense beaucoup aux restaurateurs aussi.
Et le cinéma, on l'évoquait également tout à l'heure. Bah, en tout cas, Prenez soin de vous, évidemment, Benabar.
Vous aussi, et vos auditeurs aussi.
Et de vos proches, et on espère vous accueillir, alors pour le coup, vraiment en chair et en os, très vite, dans ce journal inattendu.
Et encore une fois, courage à tous ceux qui vivent le confinement dans des conditions difficiles. C'est un peu facile de le dire, mais c'est sincère, parce que j'imagine que ça doit commencer à tirer pour ceux qui sont dans des endroits petits ou pour plein de raisons. Quoi.
Voilà, et on est peut-être déjà dans le début de la suite. Hein. Merci beaucoup à Benabar, merci beaucoup, à bientôt, ainsi qu'à Louis Chédid, Jean-Marc Dumontet, Loïc Bonnet, Gérard Drouot qui était avec nous, ainsi que Étienne Mallet et Gérard Pont, le patron des Francofolies et puis du Printemps de Bourges. On vous souhaite une très belle après-midi, je vous retrouve à 18h pour les infos et dans un instant sur RTL, confidentiel Jean-Alphonse Richard avec au programme John Travolta.
Le journal inattendu sur RTL.